Donc, après les 43 points de Dosunmu, vous allez me parler de la performance d'un joueur qu'on n'attendait pas en play-off. Qui va démarrer ? C'est Félix Gabory.
Moi, je vais vous parler de Kelly Olynyk et de sa performance avec Boston lors des playoffs 2017. Parce qu'en termes de joueurs qu'on n'attendait pas pour être décisif, c'est quand même Kelly Olynyk. On est en demi-finale
dans les années 2020, on n'attend plus un mec avec ce look-là en NBA.
Non, mais même.
C'est totalement anachronique.
Je te rassure,
toujours.
Pierrot,
il l'a toujours. Ouais, c'est ça, c'est l'avantage.
C'est fou, hein.
Pierrot, je te rassure, en 2010, ça passait pas non plus, son look à Olynyk. C'est déjà à l'époque. Donc là, on est en demi-finale de conférence. D'un côté, donc, t'as les Celtics, qui ont une équipe hyper homogène. T'as Isaiah Thomas, qui est le leader incontestable, et derrière t'as une équipe ultra complète: Jay Crowder, Avery Bradley, Marcus Smart, Al Horford, Terry Rozier et même Jaylen Brown qui était en année rookie. Ils ont terminé premier de la saison régulière. De l'autre t'as des Wizards qui étaient quatrième de la saison régulière à l'Est, qui sont emmenés par leur fameux duo de feu John Wall et Bradley Beal. Donc la série entre les deux équipes, elle est hyper serrée, personne qui arrive à gagner à l'extérieur. Donc t'arrives au tant attendu Game 7 avec donc 3 partout. Je vous ai donné Pierrot, je t'ai donné tous les noms tout à l'heure. Il y avait plein de candidats et de joueurs qui étaient capables d'être les facteurs X de ce Game 7, sauf que c'est ce bon vieux Kelly Olynyk qui va endosser le rôle de sauveur avec son rôle c'est à la croisée des bûcherons, hipsters, informaticiens, je sais pas, on voit un peu de tout. Je crois qu'il y a un petit côté
informaticien, je pense.
Ouais, ouais.
Moi j'aurais dit bûcheron plutôt.
Ouais, bûcheron
canadien.
Informaticien, voilà.
Canadien quoi.
Donc avant ce Game 7, Olynyk, qui a 26 ans à l'époque, donc qui est déjà là depuis plusieurs saisons NBA, il tournait à 8 points de moyenne sur les playoffs. Il n'avait jamais dépassé la barre des 14 points sur ses playoffs. Mm-hmm. Sur ce Game 7, il est d'abord très bon sur les 3 premiers quarts, et en sortie de banc, il met 12 points, donc il est plutôt utile. Mais c'est dans le 4e quart-temps de ce Game 7 qu'on bascule dans l'irrationnel. T'as Brad Stevens, qui était le coach des Celtics à l'époque, qui voit qu'Olynyk, il a la main chaude, donc il le fait starter le 4e quart-temps, alors que le score est toujours hyper serré dans ce Game 7. Et on peut parler d'un coaching gagnant, parce qu'Olynyk, il fait la chanson à Marcin Gortat, qui était le pivot des Wizards. Pénétration, tir en tête de raquette, 3 points, post-up. Franchement, j'ai revu ses actions, il lui fait tout. Et pour le plaisir, je vous ai même mis son dernier tir à 3 points à 500 qui termine les Wizards et qui enflamme le Garden.
Thomas, the jab step. Olynyk, a 3. Oh, Kelly Olynyk! The game of his life! Washington showed some signs of life in the fourth quarter. But the Celtics behind Kelly Olynyk, 26 points off the bench. Up by 8.
En l'espace de 3 minutes sur ce 4e quart-temps, il met 12 points, soit presque la totalité des paniers de Boston sur ce run. Et surtout, là où c'est très fort, c'est que c'est lui qui permet de creuser l'écart qui sera définitif, parce que les Celtics vont gagner de 10 points et se qualifier en finale de conférence. En tout, sur ce 4e quart-temps, il a mis 14 points, donc 14 points, ce qui était jusque-là son record entier sur un match de play-off, je le rappelle, et il termine à 26 points à 10 sur 14 au shoot. Et quand il sort à une minute de la fin, le sentiment du travail bien fait, t'as tout le Garden qui se lève, standing ovation pour Kelly Olynyk, t'as des Kelly qui chantent dans tous les sens, et c'est Al Horford qui a résumé le mieux le côté paranormal de ce Game 7 d'Olynyk. Juste après le match, il a dit: il n'a jamais joué comme ça de toute l'année. Il n'a probablement même jamais joué comme ça de toute sa carrière.
Mais d'ailleurs, il le dit, le commentateur, the game of his life.
Voilà, le match de sa vie, et ça dans un Game 7. Parce qu'on l'a vu avec Dosunmu, c'est 43 points, c'est magnifique. Mais dans un Game 7, où là, à chaque fois des Game 7, t'attends les facteurs X, tu te dis qui va porter son équipe, etc. Je pense que personne n'avait une pièce sur Olynyk, qui était 8 ou 9e joueur de la rotation.
Il raconte bien, Félix, quand même.
C'est un raconteur.
C'est son métier de raconter.
C'est ça.
Tu vois, comme quoi, c'est ton
métier. Et petit clin d'œil, messieurs, parce que là, vous savez évidemment, Olynyk est dans
On l'a offensé, le mec s'est chauffé, c'est
debout sur la table. Olynyk qui est dans ses playoffs, il est dans un
roster.
Oui, avec les Spurs.
Ouais. C'est ça ton histoire.
Ouais. D'accord. Non, mais ce petit clin d'œil, on espère, si jamais il peut sortir un Game 7 comme ça.
Non, mais je regardais
ses... Il n'a pas joué, je crois.
Il a joué une minute.
Ouais. Je regardais ses stats, il y a fait une saison à plus de 10 points de moyenne.
Ah, ouais, c'est un bon joueur de basket.
Hein. Ah oui. Un bon blue guy.
Après, je crois qu'il a été déterminant aussi sur une série playoff. Je crois qu'il ne fait pas une clé de bras, il déboîte l'épaule d'une star NBA, je crois.
Oui,
il n'a pas une histoire comme ça.
C'est une brute, lui.
Ça, c'est facteur X aussi, tu vois, de blesser un mec, clé de bras.
Au final, Boston se fait ensuite casser la bouche par Cleveland en finale de conf. Oui. Cleveland battu par Golden State en finale.
Exactement.
Olynyk, sa mère.
Mais est-ce qu'on n'aurait pas préféré
c'est sa meilleure ever, je pense.
Mais est-ce qu'on n'aurait pas préféré un petit run de Wall et Bill quand même une fois dans leur vie quand même.
On va refaire l'histoire, Pierrot.
Non, mais bon.
Ils se sont fait éteindre par Kelly Olynyk sur un Game 7.
Bradley Bill d'ailleurs.
Bradley Bill aujourd'hui.
Il est blessé.
Il s'est pété, oui.
Ah oui, il s'était pété.
Mais il est dans quelle équipe ? Je sais même pas dans quelle équipe il est. Aux Clippers, non ?
Et si, t'es au clip, hein. Début de saison, il a commencé au clip.
Il n'a pas été traité, je sais pas.
Non, il n'a pas été traité. Blessure au pied, fin de saison.
Vivement l'année prochaine.
Il a disparu de circulation.
Il a 32 ans, on sait jamais.
Alors que John Wall, on sait où il est. À Berlin.
Très bien. Bradley Emmanuel Beal Senior.
Voilà,
on sait jamais. C'est à toi, Frédéric.
C'est toi.
Ah, ça devient en roue libre à la fin de ce podcast. Non, j'avais envie de parler de ton joueur préféré.
Oui.
C'est qui ton joueur préféré?
Mark Williams.
Alors, ça peut être Mark Williams.
Un français.
Ça peut être Baron Davis. Un français.
Ouais.
Boris.
Boris, évidemment que j'ai parlé de Boris Duo. Et du 31 mai 2014, en play-off, ils affrontent OKC. Donc, comme on parlait d'OKC, je me disais que c'était le bon moment. Et ils sont sur un match 6, où dans ce match 6, un français peut en cacher un autre. Au début du match, Tony Parker est dans le match, mais il va se blesser à la cheville. Et ça va être compliqué sur le début parce que c'est OKC qui mène. Et d'un seul coup, on va voir ce qu'est capable de faire Boris Diaw. Boris Diaw, on le connaît, on sait que c'est un joueur qui force pas les tirs, c'est un joueur qui préfère faire jouer les autres. Et bien sur ce match-là, ils vont l'appeler aussi le match de sa vie parce qu'il va mettre 26 points à 8 sur 14 au tir, dont un 3 sur 6 à 3 points, un 7 sur 10 au lancer. Comme je disais, ça avait mal commencé avec un 49-42 pour OKC. Tony Parker qui se blesse, donc tu dis ça devient compliqué, match 6, oui il menait 3-2, mais tu revenais à 3-3, ça te mettait la pression, et il faut se rappeler qu'en plus en 2014, les Spurs ont gagné le titre, et Babak va sortir un match tellement incroyable, je ne sais pas si vous avez regardé les images de ce match, mais c'est vraiment des catch and shoot à 3 points, c'est vraiment des percussions, des mouvements de haut panier, on a vu du Spurs basketball aussi, où le ballon circule tellement bien qu'il se retrouve sur des shoots complètement ouverts. Il a fait un match incroyable, ce qui a permis de gagner ce match en prolongation. Alors en prolongation, il va continuer à amener, mais il y aura des joueurs qui vont prendre le relais, notamment Tim Duncan qui va être très bon à 19 points, 12 rebonds, et un contre incroyable de Kawhi Leonard. Mais ce qu'on retient de ce match, c'est que Boris Diaw n'était pas seulement un passeur, pas seulement un facilitateur, pas seulement un défenseur, c'est aussi quelqu'un qui pouvait scorer et de façon assez facile.
Mais au Suns, il a fait des gros matchs au scoring.
Oui, sauf que quand il arrive là, il revient des Bobcats, il avait été coupé des Bobcats, il arrive 2 ans avant, tu te dis, est-ce qu'on retrouvera un jour le Boris de cette époque-là? Et c'est vrai que dans le sport basketball, c'est plutôt celui qui est aidé, c'est un peu un Nicolas Batum. Et là, tu te rends compte de ce qu'il est capable de faire encore à cette période-là, ce qui te permettra d'aller au titre quand même. Il fera des play-offs fantastiques, mais en point d'orgue, il y aura vraiment ce match 6 contre OKC.
Mais joueur adoré de Greg Popovich. Hein,
ben en même temps, c'est assez logique.
Système Popovich, système des Spurs, c'est le joueur parfait.
Mais c'est surtout ce type de joueur qui t'apporte ce dont l'équipe a besoin. Tony Parker n'est pas là, il manque un peu de scoring. Je vais scorer, vous inquiétez pas.
Mais alors, c'est très bien d'avoir fait sur Boris, mais on n'avait pas besoin de ça pour savoir qu'il est capable de tout faire. Hein. On savait déjà.
Alors, je t'ai pas demandé ton avis de 1. et de 2, pour moi, ce qui était important de montrer qu'il était capable de marquer 26 points aussi dans un match de play-off. Et alors, les Ricains vont dire aussi que c'est le match de sa vie. Hein. Donc, excuse-moi, tu sais peut-être mieux que les Ricains, mais moi, je les prends en exemple.
Et il y a beaucoup de campagnes de play-off. Moi, je me rappelle, Pierrot, de campagne d'équipe de France, où des fois, on avait tendance à pester contre Boris parce qu'il prenait pas assez de responsabilité, pas assez de shoot. Et des fois, quand Tipeee était un peu plus dans le dur, je me souviens de plein de matchs, on se disait, mais vas-y, Boris, parce qu'en fait, on sait qu'il peut le faire. Prendre le ballon et aller jouer le mec et mettre des pantons.
Et bien, ce jour-là, il l'a fait.
Voilà.
Bravo.
En plus, c'est en hommage à toi, tu me mets un tac.
Non, pas du tout.
Mais je vais te mettre un tac.
Je te félicite et j'en profite pour redire que le joueur était Boris Diaw quand même. Stephen Brun.
Écoute-moi, cette performance que je vais vous conter, alors peut-être pas aussi bien que Félix, mais je vais essayer quand même. C'est une performance dont j'ai appris l'existence hier soir en préparant l'émission. J'avais entendu parler du joueur, mais je ne savais pas qu'il avait fait ce genre de performance-là, qui reste aujourd'hui encore dans le livre d'histoire de la NBA. C'est un garçon qui s'appelle Eric Floyd, qui a été surnommé toute sa vie Sleepy. Pourquoi ? Parce qu'il avait les paupières qui étaient toujours un peu fermées. On a l'impression qu'il était endormi. Il a fait une belle carrière. Il a joué 13 saisons à NBA. Il a même été All-Star une année en 87, mais en carrière, c'est 13 points de moyenne. C'est un meneur de jeu qui est drafté en 13e position en 82 par les Nets. Il est rentré dans l'histoire de la Ligue le 10 mai 87. Les Warriors, après avoir sorti Utah au premier tour des playoffs, Sleepy Floyd et son compère Chris Mullin, qui est encore un jeune Chris Mullin à l'époque des Warriors, vont affronter au deuxième tour l'équipe qui domine la Ligue, l'équipe préférée de Fred, le Showtime des Lakers, avec James Borzi, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Byron Scott, Michael Cooper, pour ne citer que. Les Lakers roulent sur les Warriors, ça fait 3-0, et se préparent donc peinardement à sweeper les Warriors à San Francisco sur le match 4. Et comme prévu, les Warriors souffrent. Ils sont à moins moins 15 à la fin du troisième quart-temps, il y a 90-83, jusqu'à l'état de grâce et au réveil de Sleepy. Il va mettre 16 points dans les trois dernières minutes du quart-temps pour amener les Warriors. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Tout le quatrième quart-temps, les ballons sont pour lui. Il transperce la défense des Lakers. Pat Riley tente tout. Michael Cooper en défense sur lui, ça ne marche pas. Byron Scott en défense sur lui, ça ne marche pas. AC Green en défense, ça ne marche pas. Le père de Klay Thompson, Mikal Thompson, qui à l'époque joue aux Lakers, va sur Sleepy Floyd. Ça ne marche pas non plus. Et on assiste à une performance dans la lignée de celle de Kobe ou de Jordan, les plus grands scoreurs de l'histoire de cette ligue. 26 points en 8 minutes, 34 points en 11 minutes. Il va terminer le match à 51 points avec la victoire des Warriors en prime pour sauver l'honneur. Un garçon qui n'avait jusque-là pas dépassé la barre des 19 points sur cette série face aux Lakers. Et Sleepy Floyd, avec cette performance, il vient d'inscrire son nom dans le grand livre d'histoire de la NBA avec deux records qui tiennent toujours. Le plus grand nombre de points sur un quart-temps en playoff avec 29. Ah ouais. Et le record de points en une mi-temps en playoff avec 39. Eric Sleepy Floyd.
Jamais entendu parler. Tu connaissais Félix, apparemment ?
De nom aussi. Mais c'est vrai que c'est la plus grande performance en termes
alors, attends,
de surprise.
Les records.
C'est la plus grande.
Tu racontes bien aussi.
Ouais, merci. Les records qui tiennent en cours, c'est le plus grand nombre de points en sur un quart-temps sur un match de play-off avec 29 et le record de points en une mi-temps sur un match de play-off avec 39.
39 en une mi-temps, Jordan ne l'a jamais fait.
Non.
Bravo.
Et 29 en un quart-temps.
Et en plus, en fin de match.
Ah oui,
difficile
dans le meantime,
à faire en fin de match qu'en première mi-temps, non ?
Évidemment.
Ah oui.
Sleepy Floyd.
Sleepy Floyd, tu connaissais Fred ?
Non, pas du tout.
Très bien. Alors,
il connaissait les Pink Floyd.
On passe au quiz. Ah.